Traduire Poussaïd, je sais pas, j'ai essayé de voir Poussaïd et Hadi. Je suis pas sûr hein, qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire. Bon, tant pis, les pauvres. Voilà. J'aimerais qu'on lise quelques passages. Et le premier passage sera dans Agé chapitre 1. Ça rejoint certaines choses qui ont été dites ce matin. La parole de Dieu est sainte et on doit y réfléchir. On doit méditer, on doit être sérieux là-dessus, comme il a été dit. Dans Agé chapitre 1, si quelqu'un pouvait venir le lire, ça m'aiderait, ça m'aide. Oui, José, tu peux lire quelques versets? Ah oui, je suis désolé, il y a le problème des micros. Alors, tu lis à partir du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le moût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shéalsiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius.
Merci beaucoup, José. Alors peut-être vous avez le sentiment ce matin que en 2018, vous avez semé, vous avez fait des efforts, vous avez cherché et qu'il n'y a pas eu grand-chose comme résultat. C'est souvent le constat, n'est-ce pas, qu'on a de nos vies. On a prié pour des choses, on a désiré du fond du cœur des choses, on a invoqué l'Éternel, on a cherché à faire des progrès. Et puis il n'y a rien qui s'est passé. Pas grand-chose. On a des petits miracles. On a des petites différences qui se sont passées. Mais malheureusement, dans l'autre sens, il y a des choses aussi qui sont passées qui n'étaient pas bonnes. Et peut-être ce matin, on est découragé. On a le sentiment que on a échoué, qu'on est dans un état de mort spirituelle ou maladie spirituelle. Et je crois que cette parole qui a été adressée à Agé doit nous interpeller. Et ce qui a été dit ce matin aussi doit nous interpeller. De nous faire chercher l'Éternel, chercher Dieu d'une manière toute spéciale pour l'année qui vient. C'est ces moments de transition d'une année à l'autre, bien sûr, c'est arbitraire. Mais c'est important parce que ce sont des tournants dans notre vie. Et ces tournants sont l'occasion de prendre des décisions, mais des décisions sérieuses, pas des vœux juste futiles, mais des décisions de servir davantage le Seigneur, de s'engager avec le Seigneur. Et là, il est dit que le peuple avait prié, avait semé beaucoup, il y avait beaucoup de tentatives qui avaient été faites, et puis il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Il y avait le découragement, mais le Seigneur a dit, c'est parce que vous avez négligé la maison de Dieu. Et là, il y a toute la réponse. C'est pas forcément le cas. C'est pas la seule raison. Mais c'était en tout cas la raison ici. C'est que la parole de Dieu, la maison de Dieu avait été négligée. L'apôtre Paul est très clair concernant ce qu'est la maison de Dieu, le temple de Dieu. C'est notre propre vie, n'est-ce pas? Et si souvent nous négligeons la maison de Dieu, nous négligeons de voir que notre vie a besoin de l'Esprit Saint, qu'elle a besoin, notre vie a besoin d'être reconstruite, d'être travaillée, d'être bâtie à nouveau ou pour la première fois. Est-ce qu'on est satisfait d'une vie qui ressemble à une ruine, ou bien qui est détériorée sur le plan spirituel? Ou est-ce que l'on voudrait que cela change? C'est très frappant parce que cette parole d'Agée qui a été donnée, adressée au prophète Agée du temps de la déportation, eh bien, ça ressemble beaucoup à ce que David avait dit à son fils Salomon juste avant de mourir. Il a dit que considère, donc ça se trouve dans 1 Chronique, ne tournez pas, 1 Chronique 28, verset 10, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. Souvent on reste devant les choses, vous savez, et puis on dit non Seigneur, il y a trop de travail. Il y a trop de découragement. Il y a trop de choses à faire, je ne peux pas le faire. Et la parole de Dieu, elle est claire là, elle était claire pour Salomon, elle est claire ici pour le peuple de Dieu, mais pour Zorobabel, pour Josué, fils de Yotsadak, elle est claire, c'est fortifiez-vous et agissez. Et il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la volonté de la personne de se lever, non pas sous ses jambes, mais se lever dans le cœur et de dire Seigneur, je vais prendre les forces, tu me dis de me fortifier, alors je prends les forces que tu me donnes. Et je vais agir. Ce n'est pas mes actions qui vont me sauver, ce ne sont pas mes prières, ce n'est pas ma consécration qui vous sauve. Si vous croyez que c'est vos prières qui sont la raison de l'exaucement, n'est-ce pas, des choses qui se passent, eh bien vous trompez, c'est Dieu qui est à l'origine. Les prières ne sont pas les prières qui font, sinon c'est nous qui sommes en train de changer la réalité. C'est Dieu qui répond. Parce que si Dieu n'était pas là, nos prières seraient vaines. C'est Dieu. Vous savez, souvent on essaye de dire à quelqu'un, tiens, il y a eu un miracle qui s'est passé, ah, j'ai prié. Comme ça la personne a l'impression que on a contribué au miracle. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit dans les cœurs. Et si dans cette Église, nous ne voyons pas en 2019 l'œuvre du Saint-Esprit agissant dans les vies pour les fortifier, pour les faire se lever, pour dire nous allons bâtir notre maison, la maison de Dieu, notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit. Je veux reconstruire avec le Seigneur. Eh bien, l'Église ne sert à rien. Ça devient un club. Et quelquefois, j'ai la crainte que dans les églises évangéliques, eh bien, on devrait mettre dans quelques années club évangélique, rassemblement de sympathisants. Et ça ne doit pas être comme ça. L'Esprit de Dieu doit parler, l'Esprit de Dieu doit agir. On sait que l'Esprit de Dieu est dans une réunion, dans une église, dans une personne, lorsqu'il y a l'action de l'Esprit de Dieu qui se fait manifestement. Et voilà ici, c'est une parole du Seigneur qui n'est pas une accusation. Combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est patient. Il n'y a pas d'accusation. Mais il leur dit la réalité, parce qu'il est lui-même la vérité. Vous savez, le Seigneur parle. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. La parole de Dieu, ce ne sont pas des mots. Il a utilisé les mots pour transmettre la parole, mais comme il a été dit ce matin, la vérité, c'est une personne. L'Évangile, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas la parole sur terre, nous sommes des mots sur terre pour les hommes et les femmes. Et c'est la parole de Dieu qui vient incarner ces mots, qui va toucher les cœurs. Mais c'est la parole qui touche. Et Jésus se tenait devant certaines personnes et les gens savaient qu'il était déjà en train de parler à leur cœur. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche. Les gens baissaient les yeux, peut-être, ne pouvaient pas supporter le regard de Jésus. J'imagine que j'aurais probablement été comme ça devant lui, ne pas supporter son regard. Vous savez que Pierre a commencé à pleurer juste quand Jésus l'a regardé, quand il avait péché. Et le simple regard de Jésus, pas de parole, mais le simple regard, a parlé à son cœur, a touché son cœur, a transformé sa vie. Ça doit être ainsi, n'est-ce pas, pour nous. Et là, il est question de se lever, de se fortifier pour travailler pour le Seigneur. Et vous savez que pendant la déportation, il y a une reconstruction du temple à Jérusalem, faite par Esdras. C'était le deuxième temple. Et dans le chapitre 2 de Agée, vous voyez, il est question de ceux qui connaissaient le premier temple et ceux qui voyaient le deuxième temple. Et le premier temple, c'était le temple de Salomon. Une splendeur extraordinaire. Vous pouvez aller lire dans l'Ancien Testament, si ça vous intéresse, dans le livre de Chroniques, comment le temple était construit du temps de Salomon. Mais c'est impressionnant. Et là, le temple était beaucoup plus modeste. Et il y avait des gens qui pleuraient parce que ils avaient vu l'état du temple d'avant et ils voyaient le temple qu'ils avaient maintenant. Mais il y a quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. Quelque chose de merveilleux. C'est qu'il dit que au chapitre 2 de Agée, au verset 7, « Je remplirai de gloire cette maison. » Et il dit à un autre endroit, là, oui, au verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est en ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » La gloire de Dieu sera plus grande dans la deuxième maison que dans la première. Oui, ça paraît, ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, ça peut être peut-être décevant. Peut-être que on a l'impression que c'est trop tard à cause de l'âge, à cause de la maladie, à cause des circonstances sociales, qu'il ne peut pas faire ce qu'il a fait au départ. Mais la parole du Seigneur, si on se fortifie, si on se met devant le Seigneur et on dit « Voilà, je veux construire avec toi, Seigneur », c'est que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Quelle espérance, ce pardon de Dieu, ce fait de pouvoir savoir « Seigneur, je sais que tu m'as pardonné, je sais que tu vas rétablir, c'est à cause de moi qu'il y a cette dégradation ». Si vous ne reconnaissez pas que la misère, elle est due à votre situation et pas à celle de Dieu, eh bien, il n'y a pas de possibilité de changement. Mais ce matin, est-ce qu'on peut entendre la voix du Seigneur qui dit, eh bien, je vais construire avec toi. Et la gloire sera plus grande. Si vous lisez dans le Saint-Testament 2 Chroniques 7, vous allez voir que la gloire de Dieu était tellement grande dans le temple, lors de la dédicace du temple, que les gens ne pouvaient pas tenir, les sacrificateurs ne pouvaient pas tenir dans le temple. Ils ne pouvaient pas rentrer, parce que la gloire de Dieu était tellement tangible. J'ai connu dans ma vie peut-être 2-3 réunions comme ça, où la présence de Dieu était tellement tangible que les gens ne pouvaient pas même tenir. Je me rappelle, et ce n'était pas du cinéma, des gens qui venaient non pas pour commencer à danser, à chanter, à se montrer, mais tomber à genoux parce que l'Esprit était là et confesser leurs péchés. Je me rappelle d'un homme qui avait décidé de rentrer aux États-Unis, quitter sa femme, abandonner sa femme et ses enfants à cause du péché. Rentrer aux États-Unis, le projet était scellé, tout était prévu, et dans cette réunion, il est tombé à genoux devant. Dieu a changé le plan, la destinée de cet homme, parce qu'il y avait sa présence, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas besoin de paroles. Prédication était traduite en deux langues, c'est-à-dire la personne qui prêchait était traduite dans une langue, la deuxième Le traducteur était traduit dans une autre langue. Ça rendait la prédication difficile. Mais l'Esprit de Dieu était là. Il y avait la repentance. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la repentance qui se produit, qui se passe. Il y a quelque chose qui fortifie. La repentance, si vous voulez, le fait de pleurer, de se mettre à genoux, c'est ça qui est la force. C'est ça que Dieu appelle fortifier et agir. C'est pas de dire, Seigneur, voilà, je suis en forme, aujourd'hui je pense que on va faire, en 2019, on va faire des choses extraordinaires, on va casser des briques, on va faire de l'évangélisation. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Tout ce que l'homme peut faire, c'est des idoles. Et ce que peut faire l'homme, c'est traduire ce que Dieu a fait en idolâtrie. On croit souvent que oui, on condamne les catholiques pour leurs idoles. Mais les idoles évangéliques existent bien. Où on dit que c'est parce qu'on a fait ceci que Dieu agit. Où il faut faire cela, il faut faire utiliser telle méthode pour pouvoir obtenir du résultat. C'est de l'idolâtrie. Parce que la réponse pour l'Église, la réponse pour l'homme et la femme aujourd'hui, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Peut-être donc vous avez le sentiment que votre temple est détruit. Mais la promesse de Dieu, et là je crois, je sais que c'était une promesse pour le peuple d'Israël, mais vous savez, on connaît le Seigneur et on sait qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça nous est dit dans Hébreux. Et on sait qu'il est le même aujourd'hui. La promesse, elle est réelle pour nous aussi. Que cette, la gloire de Dieu dans cette deuxième maison, après ce changement dans votre vie, ou peut-être cette première rencontre avec Jésus-Christ, cette gloire sera tellement plus grande que ce que vous avez connu avant. Mais il y avait quelque chose qui semblait avoir posé un problème, parce que cette parole a été adressée à Agé la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois. Et dans Zacharie, vous connaissez bien ce passage, chapitre 3, et quand je lis Zacharie, quand je commence par le premier chapitre de Zacharie, c'est le huitième mois, la seconde année de Darius. Donc, 2 mois plus tard, après cette parole qui a été donnée à Agé. Au chapitre 3, on voit le grand sacrificateur en vision, enfin c'est Zacharie, mais nous on le voit aussi, parce qu'il nous le transmet bien. On voit Zacharie, le sacrificateur, qui est accusé par Satan. Et les accusations sont systématiques. Systématiques. Il faut savoir ce que c'est une accusation, il faut savoir reconnaître une accusation. Il ne faut pas non plus dire une accusation, c'est du mensonge. Parce que les accusations sont souvent justes. Et là, dans le ciel, dans cette vision, enfin, c'est plutôt dans une vision que Zacharie voit Satan qui accuse Josué en disant, voilà, il est revêtu de vêtements sales. Et on voit que c'est une accusation parce que c'est une parole qui détruit et qui ne relève pas. Les gens qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, ils élèvent la personne. Ils la relèvent par leur présence. Et quand ils disent quelque chose de direct, comme Jésus disait, quand ils disent une parole qui fait mal sur le coup, peut-être. Vous savez que Jésus a donné ses paroles parfois dans certaines situations. Ce n'est pas pour accuser, laisser la personne par terre. C'est pour la redresser. Le chirurgien fait mal. Si vous voulez subir une opération et dire, mais moi je veux garantie zéro douleur, je veux être bien pendant l'opération, avant l'opération, après l'opération, vous risquez d'être déçu. On vous promet, on fait beaucoup d'efforts, on vous promet de plus en plus de confort, mais il y a encore de la souffrance. Et il faut passer par là. Je me rappelle que j'ai résisté au Seigneur dans certaines situations à cause de ce passage par l'opération spirituelle de sa main. Et le Seigneur était ferme. Il n'a pas dit, oh oui, bah écoute, je te comprends. Il savait ce qu'il fallait. Mais il relève et il donne la force. Le diable accuse. Et il veut nous accuser jusqu'à ce qu'on soit par terre. J'espère que de vos bouches, de votre attitude ne sorte aucune accusation. Parce que les accusations sont l'œuvre de l'accusateur des frères, qui est le diable. Il ne doit jamais avoir d'accusation, il doit avoir des paroles d'amour, des paroles qui sont vérité, mais qui redressent, et votre attitude doit redresser la personne et élever la personne, après qu'elle a entendu cela. Et là, ici, il y avait une condamnation. Est-ce que c'était juste? Bien, c'est très vraisemblable que oui. Mais le diable ne dit pas la vérité pour autant. Il dit des vérités avec des petits v. Il est en train de dire des choses qui sont vraies, mais fondamentalement c'est faux. Je dis souvent ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden à Ève. Il lui a dit, et à Adam il a dit la même chose, il a dit « Le jour où vous mangerez, vous ne mourrez pas. » Et effectivement le soir s'est couché. Ils avaient mangé le produit, le lendemain ils ont mangé le fruit, le lendemain ils ont se sont réveillés, ils ont dû se dire c'est vrai, on n'est pas mort. Mais ils étaient morts. Dieu avait dit que le jour où ils mangeraient le fruit, ils mourraient. Ils étaient morts spirituellement. Le diable avait dit quand vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et il est dit que quand ils goûtèrent le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Il avait dit, semble-t-il, une vérité. La vérité. Il n'avait pas dit la vérité. Il est le père du mensonge. Leurs yeux se sont fermés. Ils sont devenus aveugles. Vous lisez ça dans Jean, quand il a guéri l'aveugle, je crois que c'est un chapitre 9, où il dit aux pharisiens qui sont aveugles spirituellement. Le diable accuse et détruit. Et vos vêtements sont sales ce matin. Mes vêtements, je les sens souvent sales, d'échecs, de ne pas être ce que je devrais être, de ne plus être ce que j'ai connu. Et on sent les accusations qui viennent. Mais ici, le Seigneur est merveilleux. Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Josué était revêtu, couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Voyez, cet ange, il n'avait pas besoin que le Seigneur lui dise quoi que ce soit. Il connaissait tellement bien le Seigneur, il était dans la présence du Seigneur. Il savait. Et c'est cette autorité que Dieu nous donne quand on connaît la présence du Seigneur. Voilà, on peut ôter les vêtements sales. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que ça va plus loin. Voici, il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ça, c'est Zacharie qui se mêle. Il a une vision et je suppose que dans sa vision, il a commencé à parler. Il a dit qu'on lui mette un turban pur. Et ils lui mirent des vêtements. Ils ont mis ce turban pur sur sa tête aussi, j'en suis sûr. C'est ce que Dieu veut faire avec vous ce matin. Il veut faire ça en 2019 dans cette église. Enlever les vêtements sales. Enlever la culpabilité. Enlever les résultats d'une vie de souillure, d'une vie de péché. Il veut purifier et nous aider à nous fortifier. Quand on est pur, quand on est lavé, quand Dieu est intervenu dans nos vies, on peut se lever, on sent cette force, n'est-ce pas ? Voilà Seigneur, je me sens... Maintenant, tu m'as relevé. Je peux commencer à bâtir et agir pour toi. N'attendez pas que le Seigneur vous dise, ben voilà, j'ai prévu ceci, cela, ce sera d'évangélisation. Ce sera venir prêcher. Ce sera venir faire ça pour moi. Tu vas faire ça, ce programme pour moi. Tu vas t'engager davantage dans l'Église. Non. C'est un état de cœur et d'esprit. Les personnes qui sont trop âgés, qui se lèvent et qui se fortifient, sont des grandes bénédictions pour l'Église. Combien d'églises ont tenu parce qu'il y avait deux mamies qui se réunissaient pour prier pour l'Église, pour prier pour les responsables d'Église, pour intercéder. Vous savez que si on tient ici, c'est seulement par la grâce de Dieu. Mais il y a des hommes et des femmes qui prient. Vous savez que Norman et Jenny prient pour nous tous les jours. Ce n'est pas leurs prières qui nous tiennent. C'est le Dieu qui est sensible à leurs prières qui nous tient. Mais je me dis parfois, quand ils ne pourront plus prier, qu'en sera-t-il ? On ne voit pas ces gens-là qui prient, on ne les voit pas actifs dans l'Église. Ils viennent même pas, ils ne sont même pas de cette Église, ils sont d'ailleurs. Mais ils prient. Et en cela, ils sont forts et ils agissent. Et c'est ça, agir, c'est dans la recherche de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la profondeur de la communion avec Dieu. Si vous venez le dimanche matin et vous avez la communion de Dieu, vous savez, vous dites, Seigneur, je veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour la première fois, qui se donne au Seigneur. Et dans votre cœur, vous êtes préparé, vous n'êtes pas surpris quand cette personne vient, parce que c'est ça, tu m'as répondu maintenant. Maintenant, c'est à moi de prier pour qu'elle soit sauvée. Vous savez que c'est plus extraordinaire qu'elle rentre par la porte qu'elle se donne au Seigneur. Donc, si vous voyez la personne passer par la porte, vous dites, ça y est, le Seigneur m'a répondu. Maintenant, la deuxième étape, c'est la conséquence logique. Il va la sauver. Il n'amène pas les gens pour que les gens viennent et juste entendent des paroles. Il les amène pour qu'ils connaissent la vérité, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Mais ça commence par notre vie. Ça commence en 2018, pas en 2019. Quelles sont vos résolutions pour 2018 ? Pas celles pour 2019, elles n'intéressent pas. Ça m'intéressera dimanche prochain. Mais pour 2018, il reste quelques heures. Est-ce que pendant ces heures-là, on va se fortifier, on va agir par la grâce de Dieu en venant devant Dieu, en revêtant les vêtements du salut, les vêtements de la délivrance, comme il dit dans Isaïe 59. C'est ça que je veux pour ma propre vie. C'est ce dont j'ai besoin pour ma propre vie. Et Seigneur, qu'il le fasse pour moi, mais qu'il le fasse aussi pour chacun d'entre nous. Amen. Je voudrais saluer le pasteur et son épouse de Brazzaville. On est grandement honorés d'avoir leur présence aussi. Ce sont des anges du Seigneur aussi qui sont envoyés, parce que on avait perdu un peu les traces aussi de Diana. Et Diana a appelé désespérée hier. C'est la première fois qu'elle est désespérée. Elle a toujours l'espérance. Quand je lui dis comment ça va, elle dit, me dit toujours plus ou moins bien par la grâce de Dieu. Et hier, elle était désespérée. Elle a dit, je ne peux plus, la souffrance est trop forte. Et une opération me permettrait de marcher. Je sais que le pasteur et son épouse ont dit que s'ils pouvaient aider d'une manière ou d'une autre à Brazzaville pour cette sœur, eh bien, ils le feraient. Donc, c'est frappant parce que hier, elle a téléphoné après longue période d'absence, de perte de contact, et elle a supplié qu'on fasse quelque chose pour elle. Le Seigneur répond, voilà. Le Seigneur est tout puissant. Qu'il soit glorifié et que nous, on puisse le servir. On n'est pas digne de lui, mais qu'on puisse le servir. Alors, ma famille et moi, on doit partir assez rapidement, c'est exceptionnel, mais aujourd'hui, on ne pourra pas beaucoup interagir les uns avec les autres, mais interagissez les uns et les autres ensemble. Et Christiane, si tu pouvais voir avec le pasteur et son épouse, ça serait gentil. D'accord. Tout coïncide alors, voilà, très bien. Voilà. On va juste prier et remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Seigneur, tu es bon. Parce que tu as parlé, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, tu es merveilleux. Nous n'avons pas d'autres mots que nous pouvons dire, Seigneur, pour te décrire, parce que tu es grand. Seigneur, tu ne parles pas seulement par des mots, mais tu parles par les hommes et les femmes. Tu parles par ta présence, Seigneur. Tu parles par les coïncidences telles que nous les appelons. Tu parles par ton esprit, Seigneur, parce que tu es l'Esprit de Dieu. Et Jésus, ce matin, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, nous voulons te placer au-dessus de tout autre nom, de toute autre autorité, et de dire que Seigneur, nous voulons ce matin, je veux pour ma vie que ce soit toi qui sois l'autorité, que Jésus soit le seul nom, le seul à diriger ma vie. Que Seigneur, nous soyons au bénéfice de cette œuvre puissante du Saint-Esprit pendant cette année 2019 et pendant tous les jours qui nous restent sur la terre. Seigneur, nous voulons croire en toi. Nous voulons croire que ce que tu as fait, Seigneur, pour purifier Jésus, Jésus est fils de Yotsadak, pour fortifier Zorobabel, pour fortifier Josué, tu veux le faire. Et Seigneur, nous voulons crier ce matin. Nous intercédons pour Diana aussi, Seigneur. Tu vois qu'elle n'a pas cherché ce qu'elle a eu. Tu vois qu'elle est victime de la méchanceté, du péché des hommes. Et Seigneur, tu as entendu son cri. Nous croyons qu'en 2019, tu vas intervenir pour elle. Nous voulons la voir dans cette église venir témoigner de la bonté de Dieu. Seigneur, nous prions pour cela. Nous prions que Jésus intervienne. Nous ne l'avons pas rencontré, mais nous l'aimons et nous avons la responsabilité parce qu'elle a été mise sur notre chemin. Seigneur, nous prions pour elle. Nous prions pour nos frères Adi et Saïd que tu as placés aussi, Seigneur, sur notre route. Nous prions pour ceux qui sont dans la détresse. Que Seigneur, tu te manifestes comme le Dieu Tout-Puissant qui donne la gloire à nos vies, la gloire spirituelle, la gloire de Dieu, d'une manière plus grande qu'on n'ait jamais connue. Seigneur, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia Jésus. Fais cette œuvre en nous, dès maintenant, Seigneur. Amen.